Le journal de George Fox 1652-1655, un re-emprisonnement et jusqu'à Londres, page 4. Ayant été remis en liberté, j'allais à l'auberge où le capitaine Drury m'avait d'abord logé. Bien que ce capitaine fût parfois équitable dans sa conduite, il était mon ennemi et l'ennemi de la vérité, et il s'y opposait. Pendant que j'étais sous sa garde et que des professeurs venaient me voir, il se tenait tout près et se moquait des tremblements, nous appelant Quakers, comme les indépendants et les presbytériens nous avaient surnommés auparavant. Mais ensuite, il vint me dire que, tandis qu'il était couché sur son lit pour se reposer en plein jour, un tremblement soudain s'était emparé de lui, que ses articulations s'entrechoquaient et que son corps tremblait tant qu'il ne pouvait se lever de son lit, il était si secoué qu'il ne lui restait plus assez de force pour se relever. Il dit qu'il avait senti que la puissance du Seigneur était sur lui, et il tomba de son lit, et cria vers le Seigneur, et dit qu'il ne parlerait plus jamais contre les Quakers ni contre ceux qui tremblaient à la parole de Dieu. Pendant le temps où j'étais prisonnier à Charing Cross, beaucoup de sortes de gens vinrent me voir, des prêtres, des professeurs, des officiers de l'armée, etc. Une compagnie d'officiers qui était là avec moi me demanda de prier avec eux. Je restai assis en silence, l'esprit retiré vers le Seigneur. Enfin je sentis la puissance et l'esprit de Dieu se mouvoir en moi, et la puissance du Seigneur les secoua et les ébranla si fort qu'ils en furent stupéfaits, bien qu'ils ne vécussent pas dans cette puissance. Parmi ceux qui vinrent se trouvait le colonel Packer, avec plusieurs de ses officiers. Pendant qu'ils étaient avec moi, un homme nommé Cobb arriva avec une grande troupe de rentés. Les rentés commencèrent à réclamer à boire et du tabac, mais je ne voulais ni fumeur ni buveur dans ma chambre, je leur dis s'ils souhaitent faire cela qu'ils aillent dans une autre chambre. L'un d'eux s'écria « Tout est à nous » et un autre dit « Tout va bien ». Je répliquai « Comment tout va-t-il bien, alors que vous êtes si acariâtre, envieux et hargneux ?» Car je voyais qu'il avait une nature acariâtre contrariée, agacée. Je leur parlai de leur état, et ils reconnurent ce que je disais, et se regardèrent les uns les autres avec étonnement. Alors le colonel Packer se mit à parler d'un esprit léger et frivole de Dieu, du Christ et des Écritures. Ce fut une grande affliction pour mon âme et mon esprit de l'entendre parler avec tant de légèreté, si bien que je lui dis « Vous êtes trop léger pour parler des choses de Dieu, car vous ne connaissez pas la dureté d'un homme. » Alors les officiers entrèrent en fureur, comment pouvais-je dire cela de leur colonel? Packer était baptiste, lui et les rentés se faisaient beaucoup de révérences et de courbettes, car c'était la manière des rentés d'être excessivement complimenteurs, si bien que Packer leur dit d'arrêter leurs compliments, mais je leur dis « Vous êtes bien assortis, car vous avez tous deux le même esprit. » Ce colonel vivait près de Walsham, à Seabold, et fut fait juge de paix. Il établit une grande assemblée de baptistes à Seabold's Park, parce que lui et quelques autres officiers l'avaient acheté. Ils étaient d'une arrogance extrême et invectivaient contre les amis et la vérité, et menaçaient de m'arrêter avec leur mandat si jamais je venais là. Pourtant, après avoir été remis en liberté, je fus poussé par le Seigneur à aller à Seabold et à y fixer une réunion près d'eux. Beaucoup des siens y vinrent, ainsi que plusieurs de ses auditeurs qui, convaincus du chemin de vérité, reçurent le Christ le Maître gratuit et se détachèrent des baptistes, ce qui mit le colonel dans une fureur d'autant plus grande. Mais la puissance du Seigneur s'empara de lui, de sorte qu'il ne put m'entraver. Ensuite j'allai à Walsham, tout proche, et j'y tins une réunion. Les gens étaient très grossiers, se rassemblèrent autour de la maison et brisèrent les fenêtres. Alors je sortis vers eux, la Bible à la main, et je leur demandai d'entrer, et je leur dis « Je vous montrerai des passages de l'Écriture qui s'appliquent à vos principes et à vos pratiques. » Après l'avoir fait, je leur montrai aussi que leur docteur marchait sur les traces des faux prophètes contre lesquels le Christ et les apôtres se sont écriés. Puis je les dirigeai vers la lumière du Christ, l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur, afin que, par elle, ils puissent connaître leur Maître gratuit, le Seigneur Jésus-Christ. La réunion prit fin, et ils s'en allèrent apaisés et satisfaits, et depuis, une réunion s'est établie dans cette ville. Mais cela arriva quelque temps après que j'eus été remis en liberté par Oliver Cromwell. Quand je vins de Whitehall à la Mermaid, à Charing Cross qui avait été ma prison, je n'y restai pas longtemps, mais j'allai dans la cité de Londres, où nous eûmes de grandes et puissantes réunions. Les foules étaient si considérables que j'avais peine à aller et venir de la réunion, et la vérité se répandait grandement. T. Aldham et R. Craven, qui avait été shérif de Lincoln, et plusieurs amis vinrent à Londres après moi, mais A. Pork demeura avec moi. Au bout d'un certain temps, je retournai à Whitehall, et je fus poussé à déclarer parmi eux le jour du Seigneur, et que le Seigneur était venu enseigner lui-même son peuple. Je prêchai donc la vérité, tant aux officiers qu'à ceux qu'on appelait les gentilshommes d'Olivet, qui faisaient partie de sa garde. Mais un prêtre fit objection pendant que je déclarais parmi eux la parole du Seigneur, car Oliver avait plusieurs prêtres autour de lui. Ce prêtre était son rapporteur de nouvelles, un prêtre envieux, un homme léger, moqueur et frivole. Je lui dis de se repentir, et il consigna la semaine suivante dans son livre de nouvelles ce que j'avais dit, que j'avais été à Whitehall, et que j'y avais dit à un pieux ministre de se repentir. Lorsque j'y allais de nouveau, je le rencontrai, et beaucoup de gens s'étaient rassemblés autour de moi. Alors je montrai que le prêtre était menteur sur plusieurs choses qu'il avait affirmées, et il fut réduit au silence. Il écrivit dans le livre de nouvelles que je portais des boutons d'argent, ce qui était faux, car ils étaient seulement en étain. Ensuite, il écrivit dans le livre de nouvelles que j'attachais des rubans au bras des gens, ce qui les faisait me suivre. C'était un autre de ses mensonges, car je n'ai jamais utilisé ni porté de ruban de toute ma vie. Trois amis allèrent examiner ce prêtre qui avait répandu cette fausse information et lui demander d'où il tenait ce faux renseignement. Il dit que c'était une femme qui le lui avait dit et que s'il revenait, il leur dirait le nom de la femme. Quand ils revinrent, il dit que c'était un homme, mais ne voulut pas alors donner son nom. Cependant, s'il revenait encore, il leur dirait son nom et où il habitait. Ils y allèrent une troisième fois, et alors il ne voulut plus dire qui le lui avait dit, mais proposa d'insérer dans le livre de nouvelles mon démenti écrit. Les amis lui remirent donc mon démenti écrit, mais quand ils revinrent, il rompit sa promesse et ne voulut pas l'y mettre. Au contraire, il entra en fureur et les menaça du constable. Telle fut l'œuvre trompeuse de ce faussaire de mensonges. Et il répandit ses mensonges dans tout le pays par les nouvelles, afin de rendre la vérité repoussante et d'insinuer le mal dans l'esprit des gens contre les amis et la vérité, ce dont on peut voir les détails dans un livre imprimé peu après, pour disculper les amis de la vérité des calomnies et des faux rapports qu'on avait soulevés et lancés contre eux. Ces prêtres, colporteurs de nouvelles, étaient de la secte des indépendants, comme ceux de Leicester, mais la puissance du Seigneur passa sur tous leurs mensonges et les balaya, et beaucoup reconnurent combien ces prêtres étaient méchants. Le Dieu du ciel me fit traverser tout cela dans sa puissance, et sa puissance bénie passa sur la nation, au point que beaucoup d'amis, vers ce temps-là, furent poussés à voyager, faisant retentir l'évangile éternel dans la plupart des régions de ce pays, et aussi en Écosse, et la gloire du Seigneur fut ressentie sur tous à sa louange éternelle. Il y eut une grande conviction à Londres, certains dans la maison et la famille du protecteur. J'allai pour le voir encore, mais je ne pus parvenir jusqu'à lui, tant les officiers étaient grossiers. Et parfois ils relevaient ma redingote pour voir ma culotte de cuir, et ils étaient dans une grande fureur. Les presbytériens, les indépendants et les baptistes étaient dans une grande fureur parce que tant de leurs gens se tournaient vers le Seigneur Jésus-Christ, s'asseyaient sous son enseignement, recevaient sa puissance et la sentaient dans leur cœur. Puis, ils étaient poussés par le Seigneur à déclarer contre le reste d'entre eux. Je fixai une réunion dans les champs près d'Acton, où la parole de vie et la vérité salvatrice furent librement proclamées. La puissance du Seigneur se manifesta de manière éminente, et son jour béni fut exalté au-dessus de tout. À peu près à cette époque, je fus poussé à écrire un texte et à le diffuser parmi les professeurs, de la manière suivante, astérisque à tous les professeurs du christianisme. Tous ceux qui professaient Jésus-Christ en parole, et pourtant ne le reconnaissaient pas quand il vint, disaient qu'il était un séducteur et un démon. Les principaux prêtres et les juifs disaient « Il a un démon, et il est fou ». Pourquoi l'écoutez-vous? Mais d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un homme qui a un démon. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Les Juifs doutaient alors qu'il fût le Christ ou non. Ainsi, comme tous les Juifs qui avaient la connaissance du Christ à venir, les faux chrétiens ne professent qu'un Christ au ciel, mais là où le Christ est ressuscité au-dedans d'un homme, ils ne peuvent l'accepter et en doutent, bien que le Christ soit le même maintenant et à jamais. Jésus-Christ dit, « Moi et mon Père, nous sommes un », alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Et là où Jésus-Christ est aujourd'hui venu et manifesté spirituellement, ces chrétiens de simple profession extérieure ont intérieurement le même cœur endurci maintenant que les Juifs l'avaient alors, et ils jettent des pierres à ceux en qui il est ressuscité. Jésus dit, « Pour laquelle de ces bonnes œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour blasphème, toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, « Vous êtes des dieux, et l'Écriture ne peut être anéantie. » Dites-vous de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Les Juifs lui dirent, ne disons-nous pas bien que tu as un démon? Jésus répondit, j'honore mon Père et vous me déshonorez. Et ceux qui étaient dans la synagogue se levèrent, le chassèrent de la ville et l'emmenèrent jusqu'au bord de la colline sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter en bas. Les pharisiens disaient, il chasse les démons par le prince des démons. Jésus-Christ fut traité de glouton et de buveur de vin, d'ami des publicains et des pécheurs, mais la sagesse est justifiée par ses enfants. Les officiers, lorsque les grands prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens dirent « Êtes-vous aussi séduit ? Quelqu'un des chefs ou des pharisiens a-t-il cru en lui ? Les seuls qui croient sont des gens qui ne connaissent pas la loi, et ils sont maudits. » Nicodème leur dit « Lui qui était venu trouver Jésus de nuit, notre loi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu ?» Quand Étienne confessa Jésus, la substance de toute figure et type, et fut amené devant les grands prêtres pour son procès, il leur dit « Le trésor n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes », et il cita les paroles du prophète en témoignage, et leur dit qu'ils avaient la nuque raide et le cœur et les oreilles incirconcis, et qu'ils résistaient toujours au Saint-Esprit, comme leur père l'avait fait. Étienne était rempli du Saint-Esprit et dit qu'il voyait Jésus, et ils se ruèrent sur lui et le lapidèrent à mort, tandis qu'il invoquait le Seigneur. Quand Paul confessa Jésus-Christ et sa résurrection, Festu dit qu'il était fou. Quand Paul prêcha la résurrection, certains se moquèrent. Les Juifs persuadèrent le peuple, et ils le lapidèrent et le traînèrent hors de la ville, le croyant mort. Les Juifs excitèrent les païens, afin de rendre leur esprit mal disposé envers les frères. Les Juifs soulevèrent les femmes pieuses et honorables, ainsi que les principaux de la ville. Ils suscitèrent la persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leurs frontières, et il y eut une attaque, tant des païens que des Juifs avec leurs chefs, pour les outrager et les lapider. De même, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la nature de ces Juifs, dont la religion consiste en notions, excitent les chefs et le peuple ignorant, et les enflammant contre Jésus-Christ, afin de lapider d'un commun accord tous ceux en qui il est ressuscité. Cela afin que l'Écriture soit accomplie et que l'aveuglement du peuple soit mis en évidence. Et la même puissance est maintenant révélée et renverse le monde, comme alors elle renversa le monde, pour l'exaltation du Seigneur et l'abaissement du royaume de Satan et de ce monde, et l'établissement du royaume du Christ à sa louange éternelle. Le Seigneur s'exalte maintenant et abaisse le moi de l'homme. La tête de l'homme orgueilleux est arrogante et craint de perdre son orgueil et sa couronne. Les prêtres excitent le peuple ignorant, de peur que leur revenu ne diminue, et les professeurs se montrent pleins de rage, ce qui montre que Jésus-Christ, la substance, n'est pas là, mais un cœur de pierre pour lapider les précieux disciples du Christ, là où il est ressuscité en eux. L'esprit charnel se nourrit de la lettre extérieure, la terre se nourrit de la terre, et la vigne de la terre n'est pas cultivée, mais elle est pleine de ronces et d'orties, et des bêtes féroces, des porcs, des chiens, des loups et des lions, et toutes sortes de créatures venimeuses logent dans cette demeure. Cette maison est souillée et n'est pas balayée. Tels sont les persécuteurs des justes, les ennemis de la vérité et du Christ, tels sont les blasphémateurs de Dieu et de sa vérité, tels sont ceux qui invoquent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est loin de lui. Tels sont ceux qui se nourrissent de mensonges, prêtres et peuples. Ceux-ci échauffent le peuple et attisent l'envie, car elle engendre les siens, chacun semblable à elle-même. Ils sont comme les vagues de la mer, écumant leur propre honte. Ils ont des yeux doubles et leurs corps sont pleins de ténèbres. Ils se peignent avec les paroles des prophètes, du Christ et des apôtres pour paraître saints. Vous êtes des murs blanchis, des sépulcres peints, des meurtriers des justes. Vos yeux sont doubles, vos pensées sont doubles, et vos cœurs sont doubles. Flatteurs, repentez-vous et détournez-vous de vos fins charnelles, vous qui êtes pleins de malice, prétendant être de Dieu, affectant la piété et vous en faisant un manteau. Mais Dieu vous dévoilera, et il vous a dévoilés à ses enfants. Il vous mettra à nu, découvrira vos secrets, ôtera votre couronne, vous enlèvera votre manteau et votre voile, et vous dépouillera de vos vêtements, afin que votre nudité paraisse, et que l'on voit comment vous êtes assis à tromper les nations. Votre abomination et votre fausseté sont maintenant manifestées à ceux qui sont de Dieu, eux qui, dans sa puissance, triomphent de vous, se réjouissent à votre sujet, la bête, le dragon, le faux prophète, le séducteur, l'hypocrite, la mère de toutes les prostituées. Maintenant vous devez avoir votre coupe double. Donnez-lui le double. Chantez sur elle, vous les justes, chantez sur eux tous, vous les saints, triomphez dans la gloire, triomphez de la tromperie, chantez le cantique de l'agneau, triomphez du monde, répandez la vérité au loin. Sortez de prison, vous les captifs, et réjouissez-vous d'un commun accord, car les jours joyeux viennent. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse pour toujours. L'unité de cœur est venue, la pureté de cœur est venue, la joie et l'allégresse sont venues. Le Dieu glorieux s'exalte, on parlait de la vérité, mais maintenant elle est possédée. On parlait du Christ, mais maintenant il est venu et il est possédé. On parlait de la gloire, mais maintenant elle est possédée, et la gloire de l'homme est effacée. On parlait du Fils de Dieu, mais maintenant il est venu et nous a donné l'intelligence. On parlait de l'unité, mais maintenant elle est venue. On parlait des vierges, mais maintenant elles sont venues avec de l'huile dans leurs lampes. Lui seul sera glorifié. Là où l'orgueil est abaissé, la terre et la volonté charnelle sont abaissées, et le pur est élevé, là seulement le Seigneur est exalté. que les cieux s'inclinent devant lui, et que la terre chancelle de ci-de-là, vacillant en haut et en bas. Le Seigneur établit son trône et sa couronne, et renverse la couronne de l'homme, et lui seul sera glorifié, à qui appartiennent tout honneur et toute gloire, toute louange et tous remerciements. Il donne à ses enfants sagesse et force, connaissance et vertu, puissance et richesse, bénédiction et substance durable, un œil pour discerner, et une oreille pour entendre les choses simplement. Il abaisse l'orgueil du cœur de l'homme et chasse les méchants du royaume. Les justes héritent la justice, les purs, la pureté, les saints, la sainteté. Louange, louange au Seigneur, dont la gloire resplendit maintenant, dont le jour a jailli, jour caché au monde, caché à tous les sages de ce monde, à tous les prudents de ce monde, caché aux oiseaux du ciel, caché à tous les yeux des vautours, à toutes les bêtes venimeuses, à tous les menteurs, à tous les chiens et à tous les porcs. Mais à ceux qui craignent son nom, les secrets du Seigneur sont rendus manifestes, les trésors de la sagesse sont ouverts, et la plénitude de la connaissance, pour toi, ô Seigneur, rends-toi manifeste à tes enfants. George Fox, mon esprit, était grandement accablé en voyant l'orgueil qui régnait dans la nation, même parmi les professeurs, c'est pourquoi je fus poussé à écrire un texte comme indiqué astérisque à ceux qui suivent les modes du monde. Quel monde que celui-ci, comme le diable se pare, et comme les gens sont si prompts à faire sa volonté et à suivre son esprit. Ils sont tous emportés par la folie et les vanités, hommes et femmes. Ils ont perdu l'homme caché du cœur, et l'esprit doux et paisible, qui, auprès du Seigneur, est de grand prix. Ils ont perdu l'ornement de Sarah, ils revêtent de l'or et des vêtements de parade, les femmes tressent leurs cheveux, les hommes et les femmes les poudrent, donnant à leur dos l'aspect de sacs de farine. Ils paraissent si étranges qu'ils peuvent à peine se regarder les uns les autres, tant ils sont élevés dans l'orgueil. L'orgueil leur est monté à la tête, et les a si élevés qu'ils renâclent comme des ânes sauvages, et comme Éphraïm, ils se nourrissent de vent. Ils sont comme des bêtes sauvages qui pèsent sur les montagnes. L'orgueil a enflé chacun d'eux. Ils sont sortis de la crainte de Dieu, hommes et femmes, jeunes et vieux, l'un enfle l'autre. Ils doivent être à la mode du monde, sinon ils ne sont pas estimés. Non, ils ne seront pas respectés s'ils n'ont pas de l'or ou de l'argent sur le dos, ou si leurs cheveux ne sont pas poudrés. Mais si quelqu'un a quantité de rubans pendus à la taille, aux genoux et aux chapeaux, de couleurs diverses, rouge, blanc, noir ou jaune, et les cheveux poudrés, alors c'est un brave homme, alors il est accepté, alors il n'est pas quake. Il a des rubans sur le dos, le ventre et les genoux, et les cheveux poudrés. Voilà l'accoutrement du monde. Mais cela ne vient-il pas de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, ou de l'orgueil de la vie? De même, les femmes avec leur or, leurs mouches sur le visage, le nez, les joues, le front, leurs bagues aux doigts, portant de l'or, leurs manchettes doubles au-dessous et au-dessus, comme un boucher avec ses manches blanches, leurs rubans noués autour des mains, et 3 ou 4 gallons d'or sur leurs vêtements, cela n'est pas quake, disent-ils. Cet apparat plaît au monde, et si elles ne peuvent obtenir ces choses, elles sont mécontentes. Mais ce n'est pas l'habit de Sarah, dont l'ornement était dans l'homme caché du cœur, d'un esprit paisible et doux. C'est l'ornement des païens, non celui de l'apôtre, ni celui des saints, dont l'ornement n'était pas le port de l'or, ni les cheveux tressés, mais celui d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix auprès du Seigneur. Là se trouvait la sobriété et le bon ornement agréé du Seigneur. Telle était l'exhortation et la prédication de Paul. Mais nous voyons que ceux qui débitent les paroles de Paul vivent en dehors du commandement de Paul et en dehors de l'exemple de Sarah, et se trouvent sur les traces des grands païens, qui, dans leurs habits somptueux, viennent examiner les apôtres. Ceux qui ont des rubans pendus autour des bras, des mains, du dos, de la taille, des genoux, des chapeaux, ne sont-ils pas comme des garçons de violoneux? Cela montre qu'ils sont tombés dans la vie la plus basse et la plus méprisable, adoptant la mode des garçons de violoneux et des acteurs de théâtre, tout à fait hors des voies et des pas des hommes solides. Ils sont précisément sur les traces et dans les sentiers des gens turbulents, qui se sont livrés à toute invention et à toute vanité du monde qui se présente, et inventent comment charger leurs dos, leurs têtes, leurs pieds et leurs jambes, et disent que, si ce n'est pas à la mode, cela ne vaut rien. Ne sont-ce pas là des destructeurs de la création, qui en prennent la graisse et le meilleur, et la gaspillent et la détruisent? Cela n'encombre-t-il pas la terre de Dieu, que ce qui est de Dieu dans toutes les consciences répondent, et que ceux qui sont dans la sagesse jugent? Et de plus, si l'un se procure une paire de culottes comme une casaque, et les garnit de rubans et de liens, les portant au presque jusqu'au milieu, avec une paire de manchettes doubles aux mains, et une plume au chapeau, c'est un gentilhomme, inclinez-vous devant lui, ôtez vos chapeaux, faites des révérences, trouvez une troupe de violoneux, un ensemble de musique, et des femmes pour danser. Voilà un beau personnage, en haut dans la chambre du dehors, et en haut dans la chambre du dedans. Sont-ce là vos beaux chrétiens? Oui, disent-ils, nous sommes chrétiens, mais disent les gens sérieux, ils sont hors de la vie du Christ, hors du commandement de l'apôtre, et hors de l'ornement des saints. voir ceux qui sont dans les modes du monde ci-dessus mentionnés, une troupe d'entre jouant aux boules, ou aux tables, ou aux jeux de palais, ou chacun prenant son cheval avec des touffes de ruban sur la tête, comme le cavalier en a lui-même, peut-être même une boucle à l'oreille, et ainsi aller aux courses de chevaux pour gâter les créatures. Ce sont des gentilshommes en vérité, ce sont des gentilshommes élevés comme tels, ce sont de beaux gaillards, il leur faut leur divertissement, car tous les plaisirs sont licites. Dans leur jeu, ils hurlent et crient comme des ânes sauvages. Ils sont comme le bétail ou les bêtes lorsqu'on les met au pré, mugissant quand ils sont repus. Voilà la gloriole de ce dont il a été question, mais elle est dans la chair, non dans le Seigneur. Ce sont de mauvais chrétiens, et cela montre qu'ils se sont gavés des créatures, puis la chair se réjouit. Voilà une mauvaise éducation des jeunes hommes et des jeunes femmes, emportés par les vanités de l'esprit dans leurs propres inventions, orgueil, arrogance, convoitise, gourmandise, impureté. Ils mangent et boivent, et se lèvent pour jouer. C'est la génération dont Dieu n'est pas content, car leurs yeux sont pleins d'adultère, incapables de cesser de faire le mal. Ce sont ceux qui vivent dans les plaisirs sur la terre, ce sont ceux qui sont morts tout en vivant, qui ne se glorifient pas dans le Seigneur, mais dans la chair, ce sont ceux qui sont hors de la vie d'où les Écritures ont été données, vivant dans les maux et les vanités du monde, hors de l'ornement de la vérité, dans l'ornement du diable, qui est hors de la vérité, et non dans l'ornement du Seigneur, qui est un esprit doux et paisible, et qui est de grand prix auprès du Seigneur. Mais cet ornement et cette parure ne sont pas revêtus par ceux qui se partent eux-mêmes, et qui portent l'ornement de celui qui est hors de la vérité. Et ce qui est accepté à leurs yeux n'est pas accepté auprès du Seigneur. George Fox, à peu près à cette époque, le Seigneur me pressa d'écrire un court texte et de l'envoyer, comme exhortation et avertissement au pape, ainsi qu'à tous les rois et gouvernants d'Europe. Amis, vous chefs, gouvernants, rois et nobles de toutes sortes, ne soyez ni amés ni prompts à persécuter les agneaux du Christ, ne vous opposez pas non plus à la visitation de Dieu, à son tendre amour et à ses miséricordes d'en haut, lui qui les a envoyés pour vous visiter, de peur que la main, le bras et la puissance du Seigneur ne s'emparent soudainement de vous, cette puissance s'étend maintenant sur le monde. Elle se tourne contre les rois, fera reculer les sages, réduira leur couronne en poussière, et les abaissera au niveau de la terre. Dieu et le Christ seront rois, lui qui donne des couronnes à quiconque obéit à sa volonté. C'est l'époque où le Seigneur Dieu du ciel et de la terre flétrit l'orgueil de l'homme et efface sa gloire. Vous qui professez le Christ et n'aimez pas vos ennemis, mais au contraire enfermez et emprisonnez ceux qui sont ses amis. Voilà des marques que vous êtes hors de sa vie et que vous n'aimez pas le Christ, vous qui ne faites pas ce qu'il commande. Le jour de la colère du Seigneur s'amoncelle, son feu consume les méchants et ne laissera ni racines ni branches. Ceux qui ont perdu leur demeure auprès de Dieu sont hors de son esprit qui a donné les Écritures et hors de la lumière dont Jésus-Christ les a éclairés et ainsi hors du vrai fondement. Soyez donc prompts à écouter, lents à parler et plus lents encore à persécuter. Car le Seigneur amène son peuple à lui-même, de toutes les voies du monde vers le Christ, le chemin, de toutes les églises du monde vers l'Église qui est en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous les docteurs du monde vers celui qui enseigne lui-même son peuple par son esprit, de toutes les images du monde vers son image à lui, et de toutes les croix de pierre ou de bois du monde vers sa puissance, qui est la croix du Christ. Car toutes ces images, ces croix et ces ressemblances se trouvent parmi ceux qui ont apostasié loin de l'image de Dieu, de la puissance de Dieu, qui est la croix du Christ, laquelle maintenant comprend le monde et renverse ce qui lui est contraire, et la puissance de Dieu ne change jamais. Que cela aille au roi de France et d'Espagne, ainsi qu'au pape, afin qu'ils éprouvent toutes choses et retiennent ce qui est bon. Et d'abord qu'ils éprouvent qu'ils n'ont pas éteint l'esprit, car le jour puissant du Seigneur est venu, et vient sur toute méchanceté, impiété et injustice des hommes, lui qui plaidera avec toute chair par le feu et par l'épée. Et la vérité, la couronne de gloire et le sceptre de justice sur tous seront exaltés, cela répondra à ce qui est de Dieu en chacun sur la terre, même s'ils y sont étrangers. Le Christ est venu comme une lumière dans le monde, et il éclaire tout homme venant dans le monde, afin que tous croient par lui. Celui qui sent la lumière dont le Christ l'a éclairé, sent le Christ dans son esprit, et la croix du Christ, qui est la puissance de Dieu, il n'aura nul besoin d'une croix de bois ou de pierre pour lui rappeler le Christ, ou sa croix, qui est la puissance de Dieu manifestée dans les parties intérieures. George Fox. En outre, je fus poussé à écrire une lettre au protecteur ainsi nommé, pour l'avertir de l'œuvre puissante que le Seigneur a à accomplir dans les nations, y compris leur ébranlement, et pour qu'il se garde de son propre esprit, de sa ruse, de sa subtilité et de sa politique, et de la recherche d'intérêts personnels. À peu près à cette époque, il y eut un ordre pour l'examen des ministres ainsi nommés et pour les approuver ou les destituer de leurs charges ou bénéfices. À quoi je répondis en écrivant un texte au juge de paix et aux autres commissaires nommés pour ce travail, comme suit. Amis, vous juges de paix qui avez commission pour éprouver les ministres, qui ont si longtemps été dans la vigne de Dieu, voyez si les ministres sont de ceux dont parlent les Écritures, que les prophètes, le Christ et les apôtres ont désapprouvés. Et s'ils sont de ceux que le Christ et les siens ont désapprouvés, comment pouvez-vous être approuvés devant Dieu, si vous les renvoyez dans sa vie, et les approuvez? Ce sont ceux qui vous flatteront pour obtenir votre faveur, et si vous ne leur accordez pas votre faveur, ils ne vous admireront pas, comme il est dit en Jude 1, 16. Voyez s'ils ne sont pas de ceux qui enseignent pour un gain honteux, par amour de l'argent et par cupidité, et voyez s'ils ne sont pas de ceux qui s'aiment eux-mêmes, qui ont l'apparence de la piété mais en renient la puissance, de tels gens, l'apôtre commande de se détourner. Les apôtres disaient qu'il fallait leur fermer la bouche, à ceux qui ne servaient pas le Seigneur Jésus, mais leur propre ventre, étant de mauvaises bêtes, des ventres paresseux, qui n'ont souci que des choses terrestres. Paul donna à Timothée une description pour éprouver les ministres. Il dit qu'ils ne doivent pas être avides, ni adonnés au vin, ni avides de gains honteux, ni nouveaux dans la foi, car étant nouveaux, ils peuvent être enflés d'orgueil et tomber dans la condamnation du diable. C'est cela qu'ils devaient éprouver et mettre à l'épreuve sans partialité. Prenez garde d'approuver ce qu'il a désapprouvé, car depuis les jours des apôtres, ceux qu'il a désapprouvés ont eu leur liberté, et ils nous ont dit que les langues étaient leur origine, qu'ils étaient des hommes orthodoxes, et que la maison à clocher, avec une croix au sommet, était l'église, la maison de messe des papistes. Vous pouvez regarder au sommet et y voir le signe. Mais les Écritures nous disent, « Toute la terre n'avait qu'une seule langue avant la construction de Babel. Et quand Pilate crucifia le Christ, il fit mettre au-dessus de sa tête les langues, hébreu, grec et latin. » Et Jean nous dit que la bête avait pouvoir sur les langues, les tribus et les nations, et que la prostituée est assise sur les langues, dont toutes les nations ont bu la coupe, et avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Jean dit aussi que les langues sont des eaux. Le Christ donne des marques à ses disciples et à la multitude pour éprouver ce que vous devez éprouver. Ils sont appelés « maîtres » par les hommes, ils aiment la première place dans les assemblées, ils disent « mais ne font pas », et dit-il, « ils vous excluront des synagogues ». Il prononça sept malheurs contre eux, et ainsi les désapprouva. Le Christ dit que de faux prophètes viendraient, et Jean vit qu'ils étaient venus, car ils étaient sortis du milieu d'eux, et depuis, le monde les a suivis. Mais Babylone doit être confondue, la mère des prostituées, et le diable doit être saisi, et avec lui la bête, et le faux prophète doit être jeté dans l'étang de feu, car l'agneau et ses saints doivent régner sur tous et remporter la victoire. Le Seigneur Dieu envoya autrefois ses prophètes pour crier contre les pasteurs qui recherchaient la laine, Ézéchiel 34, et pour crier contre de tels pasteurs qui cherchent leur gain auprès de leurs troupeaux et n'en ont jamais assez, Isaïe 56, 11, et pour crier contre les prophètes qui prophétisaient faussement, et les prêtres qui dominaient par leurs moyens, ce qui était la chose infâme et horrible. Jérémie 5, 31. Et si vous vous absteniez de leur donner de l'argent, vous verriez combien de temps ils s'abstiendraient de vous poursuivre. Autrefois, il y avait un magasin pour les orphelins, les étrangers et les veuves, où ils venaient se rassasier, et ceux qui ne prospéraient pas alors n'apportaient pas leur dîme au magasin. Mais le Christ n'a-t-il pas mis fin à ce sacerdoce, aux dîmes, au temple et aux prêtres, et l'apôtre ne dit-il pas que le sacerdoce est changé, la loi changée, et le commandement abrogé? N'aurait-il pas pu dire que la loi de Dieu justifiait la perception des dîmes? Y a-t-il jamais eu des prêtres qui aient prospéré depuis en prenant des dîmes selon la loi des hommes? Le premier auteur de celle-ci depuis le temps du Christ ne fut-il pas le pape, ou quelqu'un de son Église? Les apôtres jetaient-ils des hommes en prison pour des dîmes, comme vos ministres le font maintenant? Par exemple, Ralph Rollingworth, prêtre de Fillingham, pour de petites dîmes ne dépassant pas 6 shillings, a fait jeter dans la prison de Lincoln un pauvre couvreur, Thomas Bromby, il y est depuis environ 38 semaines, et y demeure encore prisonnier. Et le prêtre a supplié le juge que le pauvre homme ne fût pas autorisé à travailler dans la ville pour obtenir un peu d'argent en vue de son entretien en prison. Est-ce là une bonne odeur parmi vous qui êtes en commission pour choisir des ministres? Est-ce une bonne nouvelle que de jeter en prison un homme qui n'est pas de leur assemblée parce qu'il ne voulait pas leur mettre de l'argent dans la bouche? Ceux qui sont dans la crainte de Dieu et dans sa sagesse peuvent-ils approuver de telles choses? Les ministres du Christ doivent planter une vigne et ensuite manger du fruit, labourer, semer et battre, et obtenir le grain, puis le récolter, mais non jeter en prison ceux pour lesquels ils ne font aucun travail. Le Christ, lorsqu'il envoya ses ministres, leur dit de donner gratuitement comme ils avaient reçu gratuitement, et dans quelque ville ou bourg qu'ils arrivent, de s'informer de ce qui était digne et de rester là, et ce qu'on vous mettra devant vous, dit-il, mangez-le. Et quand ils revinrent ensuite au Christ, et qu'il leur demanda s'ils avaient manqué de quelque chose, ils dirent non. Ceux qui sont dans l'apostasie vont dans une ville et rassemblent le peuple pour savoir combien ils pourront recevoir pour l'année. Les apôtres du Christ n'ont jamais fait cela. L'apôtre dit, « N'ai-je pas pouvoir droit de manger et de boire, mais il n'a pas dit qu'il prendrait des dîmes, des comptes de Pâques, des droits de la Saint-Jean, des augmentations et de grandes sommes d'argent. Mais il a dit, « N'ai-je pas pouvoir de manger et de boire ? » Pourtant il n'usa pas de ce pouvoir parmi les Corinthiens. Mais ceux qui ont apostasié loin de lui prendront des dîmes, de grandes sommes d'argent, des comptes de Pâques et des droits de la Saint-Jean, et ils jetteront en prison ceux qui ne veulent pas le leur donner, alors qu'ils ne font aucun travail pour eux. Il ne faut pas museler le bœuf qui foule le grain astérisque, mais voyez si le grain est foulé en vous, et si le blé est dans le grenier. Ceci vient de quelqu'un qui aime vos âmes et désire votre bien éternel. Astérisque, le bœuf doit être autorisé à manger du grain qu'il foule. Mais le ministre foule-t-il de l'argent? Ou est-il censé faire croître l'amour? Produire de l'argent est un commerce, produire de l'amour est la religion. Ainsi, le ministre a droit de participer à l'amour qu'il fait naître dans sa congrégation, tout comme le bœuf participe au grain qu'il foule. Mais citer ce passage, pour justifier le fait de récolter de l'argent de la congrégation, fait de la religion un moyen de commerce, ce que Jésus a combattu dans le temple, et contre quoi Pierre nous a avertis, à propos de ce qui encourageait de telles idées honteuses. George Fox, après être resté quelque temps dans la cité de Londres et m'être acquitté du service qui reposait alors sur moi en ce lieu, je fus poussé par le Seigneur à aller dans le Bedfordshire, chez John Crook, où il y avait une grande réunion et où les gens étaient généralement convaincus de la vérité du Seigneur. À mon arrivée, John Crook me dit que le lendemain plusieurs de ceux qu'on appelait les gentilshommes du pays viendraient dîner chez lui et s'entretenir avec moi. Ils vinrent, et je leur déclarai la vérité éternelle de Dieu. Plusieurs amis allèrent aux maisons à clocher ce jour-là. Et il y eut une réunion dans la campagne, à laquelle Alexandre Park se rendit, et vers le milieu de la journée, il me vint à l'esprit d'y aller, bien qu'elle fût à plusieurs milles de là. John Crook vint avec moi. Quand nous arrivâmes, il y avait là un certain Gritton, qui avait été baptiste, mais qui s'était élevé au-dessus d'eux et se disait éprouveur des esprits. Il avait l'habitude de dire aux gens leur fortune, et prétendait découvrir, quand des biens étaient volés ou des maisons cambriolées, qui étaient les personnes qu'il avait fait, par quoi il s'était attiré l'affection de beaucoup dans les environs. Quand j'entrai, cet homme s'était introduit dans la réunion et parlait, et il faisait un vacarme horrible contre les jeunes amis récemment convaincus, et il demanda à Alexandre Pock de lui donner raison de son espérance. Alexandre Pock lui dit que le Christ était son espérance, mais comme il ne lui répondit pas aussi vite qu'il l'attendait, Gritton s'écria avec vantardise, sa bouche est fermée. Alors Gritton tourna sa parole vers moi, car je restais debout et l'écoutais, et il disait beaucoup de choses qui n'étaient pas conformes à l'Écriture. Je lui demandai s'il pouvait prouver par l'Écriture ce qu'il avait dit. Il répondit, « Oui, oui. » Alors je dis aux gens de sortir leur Bible et de chercher les passages qu'il citerait pour prouver ses affirmations, mais il ne put établir par l'Écriture ce qu'il avait dit. Il en eut honte et s'enfuit de la maison, et ses partisans furent généralement convaincus, car son esprit fut mis au jour, et il ne les importuna plus de sa présence. Une fois affermis dans la vérité de Dieu, ils publièrent un livre contre lui, reniant son esprit et ses fausses découvertes. Beaucoup se tournèrent vers le Christ ce jour-là, et vinrent s'asseoir sous son enseignement, si nombreux que les juges et beaucoup de magistrats du Bedfordshire furent dans une grande fureur parce que tant de gens se détournaient des prêtres mercenaires pour l'enseignement gratuit du Seigneur Jésus-Christ. John Crook astérisque fut gardé par la puissance du Seigneur, et pourtant il fut déchargé de sa charge de juge de paix. Astérisque John Crook apparaît bien d'autres fois dans ce journal, et dans George Fox et les Quakers. Il a également été jugé, et familier de l'environnement judiciaire, il a conservé un compte rendu de son procès qui illustre l'injustice des tribunaux et qui est disponible sur ce site. 1, 2, 3, 4, retour suivant.